Chapitre 23. Les ruines de Trantor. Arriver à repérer un objectif avec précision sur un monde tel que Trantor relève de la gageure. Nulle part dans toute la galaxie, un tel problème ne se pose avec tant de difficultés. Pas le moindre continent, pas le moindre océan à des milliers de kilomètres à la ronde qui puisse servir de point de repère. Pas de fleuve, pas de lac, pas le moindre petit îlot pour s'orienter à travers les bancs de nuages qui dérivent dans l'atmosphère. Ce monde caparaçonné de métal avait été jadis recouvert d'une seule et unique cité colossale. L'ancien palais impérial était bien la seule et unique construction susceptible d'être facilement identifiée de l'espace par un étranger. Aussi, le Beïta persistait-il à effectuer sans relâche, dans toutes les directions possibles, le tour de la planète, en conservant une altitude à peine plus élevée que celle d'ordinaire adoptée par une simple aérovoiture. Des régions polaires, où la glace qui recouvrait les tours métalliques prouvait que le système de climatisation planétaire était en panne ou défectueux, ils se dirigèrent vers le sud. De temps en temps, ils parvenaient tant bien que mal à établir un rapprochement le plus souvent hasardeux entre ce qu'ils voyaient et ce que montrait la carte bien insuffisante qu'ils s'étaient procurée sur Néo Trantor. Pourtant, une fois sur place, ils n'hésitèrent pas une seule seconde. La couverture de métal de la planète s'ouvrait ici sur plus de 80 kilomètres. Une végétation incongrue recouvrait ainsi plusieurs centaines de kilomètres carrés d'espace nu et enchâssait, tel un joyau, la grâce altière des anciennes résidences impériales. Le Beïta se plaça en vol stationnaire au-dessus de la zone et s'orienta lentement. Seules les titanesques mégarampes de circulation étaient susceptibles de leur servir de point de repère. De longues flèches droites sur la carte, des rubans lisses et brillants au-dessous d'eux. Ils naviguèrent à l'estime jusqu'à la région que la carte indiquait comme étant celle de l'université, et le vaisseau se posa sur l'espace plat qui avait dû être jadis un astroport animé. Lorsqu'ils plongèrent résolument au sein de l'enchevêtrement inextricable des structures métalliques, l'apparente unicité du paysage disparut tout à fait. Tout ne fut plus que ferraille brisée et tordue, vestige du pillage. Les tours étaient rasées, les parois tordues et bosselées, et l'espace d'un instant, ils aperçurent même une zone de terre nue sur plusieurs centaines d'hectares. De la terre noire, arable. De la terre visiblement cultivée. Lee Center observait tranquillement le vaisseau qui entamait, non sans prudence, ses manœuvres d'atterrissage. Un appareil étranger qui ne venait pas de Néo Trantor. Lee ne put maîtriser un soupir. Les vaisseaux étrangers et les négociations confuses avec les hommes qui venaient du fond de l'espace pouvaient signifier la fin de la brève période de paix. Un retour aux temps héroïques. De nouveau, des morts. De nouveau, des batailles. Center était chef du groupe. C'était à lui qu'étaient confiés les vieux livres. Il avait déjà lu des récits datant de cette époque-là. Il ne voulait pas voir cela se reproduire. L'appareil mit sans doute une dizaine de minutes pour se poser délicatement sur le terrain plat qu'il avait repéré. Pourtant, durant ce bref laps de temps, bien des souvenirs se bousculèrent dans l'esprit de Center. Il revit d'abord la grande ferme de son enfance. Il gardait simplement de ce temps-là le souvenir d'une foule de gens constamment occupés. Et puis, il y avait eu le départ des jeunes couples vers les terres nouvelles. Il avait 10 ans à ce moment-là. Il était fils unique. Il était tout à la fois étonné et effrayé par ce qui leur arrivait. Puis ils avaient trouvé ces vastes bâtiments. Ils revoyaient ces grandes plaques de métal qu'il fallait déraciner et recouper. Le sol nu qu'il fallait retourner, rafraîchir, revigorer. Les bâtiments voisins qu'il fallait abattre et raser. D'autres qu'il fallait transformer en lieux d'habitation. Les semailles, les moissons. Les relations pacifiques à établir avec les fermes voisines. La croissance et l'expansion nécessaires à la survie. Le rendement, seul gage de l'autonomie. Puis une nouvelle génération de jeunes gens était apparue, plus endurcis que leurs aînés, nés à même la terre. Puis il songea enfin au grand jour de sa vie. Ce jour où il avait été élu chef du groupe et où pour la première fois depuis son 18e anniversaire, il ne s'était pas rasé, et avait vu apparaître les premiers poils de sa barbe de chef. Et voilà que la galaxie allait peut-être s'en mêler et mettre un terme à cette brève période d'isolement, menacés de détruire leur petit paradis retrouvé. Le vaisseau se posa. Center regarda sans un mot la porte s'ouvrir. Quatre personnages émergèrent visiblement sur leur garde. Il y avait trois hommes très différents. Un vieux, un jeune et un maigre avec un nez bizarre, comme un bec d'oiseau. Une femme les accompagnait et se comportait comme leur égale. Center s'avança et leur adressa le signe universel de la paix, main bien en avant, paume dure et calleuse tournée vers le ciel. Le jeune avança de deux pas en avant et répéta ce geste.
« Je viens en paix !»
L'accent était étrange, mais les mots étaient compréhensibles. Center répondit du fond du cœur.
« Que la paix soit avec vous. L'hospitalité du groupe vous est offerte. Avez-vous faim, vous mangerez. Avez-vous soif, vous boirez.
« Nous vous remercions de votre bonté, » répondit lentement le voyageur, « et nous porterons témoignage de l'hospitalité de votre groupe quand nous regagnerons notre monde. » Réponse bizarrement formulée, mais somme toute satisfaisante. Derrière lui, les hommes du groupe souriaient, confiants. Du fond des constructions avoisinantes, les femmes se mirent à sortir. Il alla dans son logement personnel, tira de sa cachette le coffret aux parois de verre miroir qui s'y trouvait dissimulé, l'ouvrit à l'aide d'une petite clé et offrit à chacun de ses hôtes les longs cigares renflés réservés pour les grandes occasions. Il hésita devant la femme. Elle avait pris place parmi les hommes. Les étrangers toléraient de toute évidence cette effronterie, semblaient même la trouver naturelle. Non sans une certaine raideur dans le geste, il lui tendit le coffret. Elle accepta un cigare en souriant et en tira une bouffée avec tout le plaisir qu'on pouvait imaginer. Lee Center s'efforça de ne pas montrer qu'il était scandalisé. Au cours de la conversation, un brin formel qui précéda le repas, on aborda avec réserve le problème de l'agriculture sur Trentor. Ce fut le vieil homme qui demanda.
« Et les hydroponiques ?» Pour un monde comme Trentor, les hydroponiques, ce serait la solution, non ?
Center hocha lentement la tête, l'air passablement perplexe. Il tenta péniblement de rassembler le peu de savoir exclusivement livresque qu'il pouvait posséder sur la question, puis finit par répondre
« La culture artificielle à base de produits chimiques, c'est bien de cela que vous voulez parler ?
Non, pas sur Trentor.
Ces cultures hydroponiques dont vous parlez nécessitent une industrie à l'échelle planétaire, notamment une industrie chimique développée. Et en cas de guerre ou de désastre, quand l'industrie s'effondre, les gens meurent de faim. Et puis, on ne peut pas faire pousser artificiellement toutes les denrées. Certaines perdent de leur valeur nutritive. La Terre, c'est encore ce qui revient le moins cher, et on peut toujours compter sur elle.
Et vous arrivez à produire suffisamment pour couvrir vos besoins ?
Suffisamment ? Bon, le menu n'est pas très varié, c'est vrai.
Nous avons des volailles qui nous fournissent des œufs et du bétail pour nos produits laitiers, mais notre ravitaillement en viande dépend surtout de notre commerce extérieur.
Votre commerce ? Fit le jeune homme qui parut soudain intéressé.
Vous faites du commerce alors ?
Mais qu'exportez-vous ?
Du métal, répondit aussitôt Center.
Regardez vous-même, nous en avons des quantités inépuisables, prêtes à l'emploi. Les gens viennent donner au Trentor avec des vaisseaux, démolissent une zone donnée, ce qui augmente ainsi notre espace cultivable, et nous laissent en échange de la viande, des fruits en conserve, des aliments concentrés, de l'outillage agricole. Ils emportent le métal, et tout le monde est content.
Ils firent un excellent repas, essentiellement à base de pain et de fromage, agrémenté d'un ragoût de légumes absolument délicieux. Ce fut au moment du dessert, des fruits congelés, le seul article d'importation au menu, que les étrangers devinrent un peu plus que de simples invités. Le jeune homme exhiba une carte de Trentor.
Lee Center l'examina calmement.
il écouta ce qu'on lui disait et finit par dire « Le campus de l'université est une réserve. Personne ne doit y toucher. Nous autres fermiers, nous ne faisons rien pousser là-bas. Nous préférons même ne pas y pénétrer. C'est une des rares reliques que nous ayons encore d'une époque désormais révolue, et nous voudrions pouvoir la conserver telle qu'elle.
L'objet de notre quête est le savoir, rien que le savoir. Nous ne toucherons à rien. Nous vous laisserons notre vaisseau en gage de notre bonne foi. »
Se hâta de proposer l'aîné des voyageurs. « Dans ce cas, je peux vous conduire là-bas, » répondit Center. Le soir venu, les étrangers partirent se coucher et s'endormir. Le soir venu, Lee Center envoya un message à Néo Trantor.